France Culture.
Les nuits de France Culture.
Il y eut Gustave Le Rouge, prolifique auteur de fantastique et de science-fiction de la Belle Époque aux années folles, qui écrivit en 1911 Les derniers jours de Paul Verlaine. Et en 2015, signé par l'écrivain musicien Emmanuel Tuny et nourri du livre de Gustave Le Rouge, il y eut le livret de Verlaine Gisant, une création musicale de John Greaves, le dernier volet d'un triptyque qu'il consacrait à Paul Verlaine, un poète qui aura longtemps occupé le musicien gallois. En 2016, invité de Manu Farine dans Poésie et ainsi de suite, John Greaves et Emmanuel Tuny y présentaient Verlaine Gisant. L'occasion d'entendre rappeler la musicalité de la poésie de Verlaine, depuis toujours et si souvent chantée, et de découvrir, à travers quelques extraits de la composition de John Greaves, l'une des plus convaincantes et originales manières dont la poésie et la vie tourmentée de Verlaine auront été traduites en musique. Poésie et ainsi de suite, John Greaves et Emmanuel Tuny pour Verlaine Gisant, une émission diffusée le 8 janvier 2016 sur France Culture.
La poésie, ça obsède, jusque dans les derniers jours de Paul Verlaine ou dans les rayonnages d'une librairie, à fantasmer ce soir avec le poète, musicien, écrivain Emmanuel Tuny, le compositeur et chanteur John Greaves.
Poésie et ainsi de suite, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à minuit. Emmanuel Tuny, John Greaves, bienvenue.
Bonsoir.
Emmanuel Tuny, écrivain, poète, musicien, diplomate, essayiste, traducteur. J'en oublie, peut-être, je ne sais pas.
Je fais quelques sculptures en argile de temps à autre, mais c'est tout à fait personnel.
Et vous avez joué au foot aussi.
Aussi.
Auteur d'une quarantaine d'ouvrages et d'albums, dont une récente rafale, Bossa, un poème épique et dansant post-Brésil aux éditions Publi.net, Saison aux éditions Châtelet-Voltaire, qui est une sorte de fable mystico-animalière illustrée par les photographies d'Anna Katharina Scheidegger, avec qui vous publiez également Le rêve d'Ananke. Et pour finir, Verlaine Gisant, toujours chez Publi.net, inspiré des derniers jours de Paul Verlaine de Gustave Le Rouge, un recueil qui nous occupe plus particulièrement ce soir, puisqu'il est mis en musique par vous, John Greaves, gallois francophile, on va l'entendre, compositeur, bassiste, chanteur, un parcours entre rock expérimental anglais d'abord, ça c'était au seuil des années 70, jazz, musique contemporaine et improvisation, on va le voir tout à l'heure, et c'est Paul Verlaine qui vous cueille au milieu des années 2000.
Moi, je suis de la vase, je regarde du fond du vase. De la fleur de la nuit d'été, la vie qui s'affaire.
La voix de Jeanne Haddad dans l'une des voix de ce Verlaine Gisant que vous signez, John Greaves, avec Emmanuel Tuny au livret, Thomas de Pourquerie en Verlaine, Élise Caron et Jeanne Haddad donc en femme de sa vie, Ève Risser au piano, Olivier Mélano à la guitare, Léon Milot aux percussions, Régis Boulard à la batterie et vous, bien sûr, à la basse, au chant. 12 titres et un solo alto pour une sorte de lente agonie du poète, d'abord destinée à la scène, puis parue cet automne sous le label Signature. Ce Verlaine Gisant est le troisième volet d'un triptyque. Il y a d'abord eu Greaves Verlaine, puis Divine Ignorante. Deux albums qui mettaient en musique les vers de Verlaine. Cette fois, c'est au mot d'Emmanuel Tuny que vous vous en remettez pour dire ce que vous appelez vous-même votre obsession de Verlaine. Pourquoi est-ce qu'il fallait en passer cette fois par une autre voie? La musique de Verlaine ne vous disait plus rien?
Parce que je voulais, en quelque sorte, conclure, clore cette histoire. Je pense que le mot que j'utilisais n'était pas obsession, c'était fixation.
Qu'on traduirait comment alors?
Fixette.
Voilà. Je voulais, c'était pas fini l'histoire. J'avais fait deux disques où j'avais exploré les textes de Verlaine comme compositeur et comme chanteur, qui est une expérience. Et j'avais l'idée de finir dans une manière plus théâtrale, plus large, avec des vraies voix françaises, pas ce vieux crooner gallois qui fait son mieux avec cette langue impossible. Ouais. Et c'est en voyant Emmanuel en Russie qu'on a parlé de ça longuement.
Dans un bar.
Dans un bar, bien sûr. Très tard, et c'était juste, c'est là où il avait annoncé son histoire. Je ne savais même pas qu'il avait fait son thèse sur les derniers jours de Paul Verlaine.
De Gustave Le Rouge.
De Gustave Le Rouge. Et c'était juste là que c'était évident. Vous avez parlé de l'agonie de Paul Verlaine, mais c'est plus que ça. C'est vraiment ces derniers jours où on voit par l'optique de ses textes et ses personnages toute sa vie, quoi. Deux semaines plus tard, il avait tout pendu, l'autre. Donc, très rapide, commencez bien.
Alors, on va peut-être vous écouter pour un premier, pas tout à fait extrait, puisque vous êtes là tous les deux, Emmanuel Tunier et John Greaves. Si j'ai bien compris, c'est une sorte de mix entre des textes de Verlaine gisants, mais inédits, qui ne figurent pas dans l'album, lus par Emmanuel Tunier et John Greaves au piano.
Oui, c'est ça. Juste pour expliquer, peut-être, c'est complètement à l'improviste, là. On est là, on a décidé de faire ça il y a, je crois, deux minutes. Et on va faire, Emmanuel va lancer le ballon. Et après, je fais la deuxième partie avec une chanson qui parle, c'est une chanson de moi qui parle de la poésie. En anglais cette fois-ci, juste pour voir que je sais bien chanter en anglais.
Je vous laisse regagner vos places, donc, dans ce studio. John Greaves au piano et à la voix, Emmanuel Tunier au micro également. C'est à vous.
Ma petite femme au glaïeul, je suis seul. Me manque plus que tout au monde votre ronde. Il y avait un chat sur le mur, j'en suis sûr, il me revient qu'il n'avait point votre allure. Ma petite femme aux lanternes, il fait nuit. Les oiseaux d'océan, les sternes, virent suie. Je sais bien qu'il vous faisait peur, n'ayez crainte. Vous êtes ma petite sainte, c'est du beurre. Je veille, dormez votre sou, mon amour. J'écouterai battre toujours votre pouls. Je veille, je suis là toujours, mon amour. Couvrez de fleurs des champs en volage, mon image, mon image.
Two poets naked in a photograph. Sacred, I had to laugh. Speaking in tongues, talking in rhymes. Paradox, paradigms, intimacy, and ecstasy. On dope, staring down a microscope, shapes and pictures, sounds and words, skyscrapers, mockingbirds, intimacy and ecstasy. See it in their eyes, see it in their bodies, God is the Word, and the Word is what God is, is poetry. Keeping them alive. See it in their faces, I see it in their nakedness, I see it in their lips, flowing through their fingertips, it's poetry. Skin's glowing, eyes on fire, passion pure, neat desire, intimacy, and ecstasy.
C'était John Greaves au piano et à la voix, et Emmanuel Tunier au micro. Merci pour cet inédit. Verlaine...
Juste dire deux mots par rapport au texte, pour que ça apparaisse pas trop insolite dans cette émission. C'est une histoire de poésie, comme son mot indique. Et c'était basé sur une idée... J'ai vu une photo, il y a longtemps, à Paris, quand j'avais rencontré Allen Ginsberg. Il était à Paris pour une expo de ses photos. Parce qu'il n'arrêtait pas de prendre des photos avec son petit Brownie 127. Et là, dans la série, une photo qui me marquait beaucoup, c'était lui et Ferlinghetti, je crois. Tous les deux nus. Et le caption, c'était « Me and Ferlinghetti take ecstasy for the first time ». Ça m'a un peu inspiré, la chanson. Intimacy and ecstasy.
On fait presque une transition, parce qu'on va continuer sur cette idée de fixette dont parlait Emmanuel Tunney, et dont vous parliez aussi, John Greaves. Cette fixette à propos de Verlaine, de quoi est-elle faite? Par où est-ce qu'elle a commencé?
Par, tout simplement, je cherchais, il y a combien d'années maintenant, vous allez me dire, quand j'avais attaqué mon premier Verlaine, c'était, je voulais faire un disque en français, c'est pour moi, hein. Personne ne me demande jamais de faire des disques, c'est toujours moi qui... quelque chose et j'ai réussi plus ou moins.
C'est très excessif. Winston Churchill t'avait demandé une fois, je m'en souviens.
Non, j'étais gaoué, il n'aimait pas les gaouas.
Ah oui, c'est vrai.
Mais je voulais faire un disque en français et je cherchais des textes. Je ne vais pas encore rencontrer M. Tunney, peut-être ça nous en fait autre chose. Et j'ai passé tout un été à relire tout ce que je lisais quand j'étais jeune. Tous les Mallarmé, les Apollinaire, de Rimbaud, etc. Et je suis tombé vraiment sur Verlaine, comme ça m'a chanté direct. Je ne suis pas un universitaire, vraiment, pas un intello, juste, voilà, ça chantait dès le premier vers, la première ligne que j'ai lue, c'était peut-être Colloque sentimental, je crois, ce qui chantait tout de suite. C'est très facile, en fait. Il chante Verlaine, c'est très direct, c'est un très bon chansonnier.
Qu'est-ce que ça vous demande à vous que de chanter en français?
De chanter beaucoup, beaucoup d'efforts, malgré les apparences. C'est risqué, c'est un parti pris, quoi. Je sais que c'est pas évident, il n'y a pas de raison pour que, avec mon léger accent, n'est-ce pas, que je voulais voir ce que ça donne aussi dans cette langue, parce que évidemment, il y a un décalage, surtout par rapport à la poésie, par rapport. Les meilleures réponses que j'ai eues pour le disque, les deux disques de Verlaine où je chante, c'est plutôt des jeunes, pas tous les jeunes, mais des jeunes qui disent non, ça c'est pas pour Verlaine, c'est pas possible, c'est juste autre chose. Donc, le rang actuel qu'il est de toute façon, et ça met un écart entre le côté académe de la poésie française, de l'universitaire, et juste le poète, la rue qu'il était, comme je disais, bon chansonnier, quoi.
Chanter en français, ça demande autre chose du compositeur que vous êtes?
Moi, j'avais la chance d'être les deux. Donc, en construisant les mélodies, ce sont mes mélodies. Donc, la prosodie venait direct de la même source, si vous voulez. Donc, c'était si je les avais écrits dans une telle façon, c'est parce que ça arrivait directement dans l'information de ma bouche aussi. Hein. Même si des fois, je me plante et on comprend que dalle. Donc, ça arrive aussi, mais c'est pas grave. J'espère.
Pour les textes, pardon.
C'est très très grave.
Ouais, toi, on est
à la limite du scandale, enfin. Ouais,
voilà. Emmanuel Tuny, pour les textes, vous vous êtes inspiré d'un texte en particulier, qui sont donc Les derniers jours de Paul Verlaine de Gustave Lerouge, paru en 1911. On a compris que vous aviez travaillé sur ce texte-là il y a fort longtemps, mais malgré tout, quel Verlaine ce texte-là vous permettait de mettre à jour? Pourquoi est-ce qu'il fallait en passer par lui, précisément, ce texte-là?
Parce qu'il y a, d'ailleurs, comme dans un peu dans le bouquin de Puente, il y a une sorte, dans ce texte de Lerouge, il y a une sorte de constriction, comme ça, des moyens mis à disposition de celui qui écrit pour décrire une humanité en marche. Il ne s'agit vraiment pas, ça se pratiquait beaucoup à l'époque, d'ailleurs, il ne s'agit vraiment pas d'un texte de fiction, il s'agit vraiment d'une sorte de rapport journalier des activités de quelqu'un. Rapport journalier qui est saisi dans un tel luxe de détails, encore une fois, de détails castrés de l'ornement, que finalement on saisit de manière extrêmement visuelle, presque hypnotique, le déplacement, la respiration terminale de cet être-là. Et ce que j'en ai tiré, c'est ce que je pense qui que ce soit en tirerait, c'est-à-dire l'impression d'une folle volonté d'extraction du matériel, en fait d'une folle volonté de demeurer à travers tout signe en soi donné de la capacité à demeurer. Verlaine, moi je le connaissais très peu comme poète parce que je lis pas beaucoup de poésie, mais j'avais l'impression comme ça d'un être tonitruant. Et c'est vrai qu'en lisant le rapport en quelque sorte de ce mémorialisme d'occasion qu'est Lerouge, on a vraiment la sensation je ne sais pas si le mot existe, peu importe, ça n'a pas d'importance, mais que ce tonitruement était à l'œuvre jusqu'au bout, et qu'il s'agissait bel et bien de témoigner de l'existence d'un vivant impérissable. Voilà, quelqu'un qui ne joue pas avec cette espèce de glorieux abandon du mourant, mais qui est toujours dans cette espèce de démonstration à la limite de l'hystérie virile, hein, de sa capacité à s'extraire toujours et jusqu'au bout. Voilà, c'est à peu près ça ce qui transparaît chez Lerouge, dont je ne sais pas s'il a été à un moment ou à un autre un traducteur fidèle de ce qu'il voyait, mais dont tout porte à croire tout de même qu'il a été véritablement au contact de quelqu'un qui refusait à toute force de léguer à l'écriture la capacité de le représenter outre-tombe, en quelque sorte. Voilà.
Écrire sur Gustave Lerouge, j'imagine que c'était un travail universitaire, hein, ce dont parlait John Grisham.
Oui, c'était
tout à
ma thèse. Oui.
Qu'est-ce qu'il s'agissait de défendre, justement, en défendant cette littérature?
Oh là là, si je m'en souviens bien, il s'agissait de défendre l'idée qu'à travers la fiction et son efflorescence se manifestait le désir un peu post-positiviste, comme ça, de témoigner d'un rapport un peu scientifique au monde, d'un rapport un peu obsessionnel et compulsif à l'idéal de connaissance, et que la fiction était peut-être cette cuillère de confiture un peu corte qui permet à la pilule positiviste, scientiste, scientifique, etc., et de passer chez le lecteur. C'était vraiment un travail sur la passation de la valeur, la passation de la connaissance par la fiction la plus débilement tropicale. Enfin voilà, enfin la plus voilà.
Vincent Puente, vous avez découvert, je crois, ce texte.
Je ne connaissais pas ce texte, effectivement, qui touche à quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire les derniers jours des gens. Donc, comme Thomas de Quincey, les derniers jours d'Emmanuel Kant aussi. C'est toujours intéressant de savoir comment les gens qui marquent le monde et leur discipline décident de disparaître. Et toujours, je me souviens des derniers mots d'Alfred Jarry qui aurait demandé un cure-dent. Et quelqu'un m'a fait remarquer que finalement, Jarry, dans l'état de décrépitude dans lequel il était, aurait très bien pu demander un cure-ton. Et ce qui change largement la lecture de
Jarry. Mais tu m'accorderas que l'usage n'est pas le même.
L'usage n'est pas le même, cela dit.
Manuel Tuny, double contrainte, donc écrire sur Verlaine, dans les deux sens du terme, et écrire dans le format chanson, j'imagine que c'est plutôt le terme de chanson qui est approprié, en tout cas pour ce qui est de l'album de John Greaves. Qu'est-ce que ça demandait en termes d'écriture pour vous ? De quoi est-ce qu'il fallait se méfier ?
Ce dont il s'agissait de me méfier, enfin ce dont je pensais qu'il fallait se méfier absolument, c'était de produire des chansons, parce que c'est vraiment ça, et là tu as parfaitement raison, des chansons qui n'étaient pas adaptées à la voix, au grain de voix si spécifique qui est celui de John. C'est-à-dire... La première chose, c'est que je ne voulais absolument pas produire quelque chose qui fût ce qu'en général on observe a posteriori de cette période-là, c'est-à-dire un goût des éthers, comme ça, une espèce d'ultra-romantisme. Je voulais vraiment qu'on soit dans la rocaille, enfin qu'on soit vraiment dans quelque chose, dans le gravier, enfin dans le graveleux, dans le gravier, dans la rocaille, dans quelque chose qui me semblait traduisible dans le chant si particulier de John. En général, quand je travaille pour un artiste, parce que John n'est pas le seul pour qui je travaille, fut-il le meilleur, je fais en sorte que ce soit chantable, non pas par l'artiste en question, mais par sa voix, ou par sa tessiture, ou par le fil de voix charrie de matière.
Qu'est-ce que demanderait la voix de John Greaves?
Ben, encore une fois, un rapport très très tectonique, un rapport très très terrien, très très rocailleux, très très graveleux, c'est très difficile. J'aurais du mal à composer un texte pour John. Je l'ai fait, et c'était pas ce que j'ai réussi de mieux, des textes un peu célestes, un peu aériens, comme ça. Je vois pas d'envolée d'oiseaux, je vois pas de trucs comme ça. Je vois plutôt un ancrage vraiment de glèbe, de terre, de charbon, de choses très, voilà, comme ça. Donc la première exigence c'était celle-là, et la seconde c'était de faire en sorte que à travers cette prosodie de la rocaille ou cette prosodie du gravier, quelque chose de cette énergie, de cette volonté de demeurer à soi-même, mais en vie, de ne pas faire confiance à la littérature pour être son missi dominici outre-tombe, de Verlaine. Donc il fallait que ce soit à la fois, pour être très rapide, énergique, profondément viril, et en même temps très très en désagrégation terrienne, quoi, comme ça, je sais pas comment vous dire.
Vous écoutez France Culture. Poésie et ainsi de suite. Par Manu Farine.
Quand vous dites, John Greaves, qu'il ne s'agissait pas de mettre la poésie en musique, mais d'en construire des chansons, qu'est-ce que ça veut dire, musicalement, en termes de composition, justement ?
Pour moi, c'est toujours, je passe beaucoup de ma vie à travailler dessus, c'est la prosodie, tout simplement. Mettre la poésie en musique, mais des bonnes paroles, la beauté de la langue, etc., il y a... beaucoup d'exemples de ça, ça existe, quoi, avec de la belle musique d'ailleurs. Mais c'est une chanson, c'est pas ça. Une chanson, c'est pas la poésie déjà.
C'est quoi?
Les textes lyriques, c'est plus direct, ça s'éclate, ça s'explose, à la première vision, je pense, la première écoute de ça. C'est pas une histoire de réflexion. Et donc, il faut que la prosodie, la note qui correspond à tel son, à telle syllabe, il faut que c'est vraiment critique, que ça sonne juste à chaque fois. Et mon travail dans ce sens-là, c'était ça. Comme je disais tout à l'heure, en tombant sur Paul Valéry, je trouve relativement pas facile, c'est pas facile, mais c'était clair ce qu'il fallait faire avec ça. Comment faire chanter les sanglots longs, les bio longs de l'humanité. Je pense que pour moi, il y a beaucoup d'autres qui ont fait mieux ou pas. Comment? Mais pour moi, la prosodie et la sonorité de faire vivre, de faire visualiser l'image est là dans la bonne relation entre le texte et la mélodie.
Alors justement, sur cette bonne relation, John Greaves, vous dites que pour chaque texte d'Emmanuel Tunney, vous avez commencé par chercher la couleur, puis la mélodie, puis le rythme. Je ne sais pas si effectivement cette méthode a été aussi carrée que ça.
Si je l'avais dit,
si c'est le cas,
je l'assume.
Si on prend l'exemple du court extrait qu'on a entendu en tout début d'émission, qui est donc cette ère de la lune qui était chantée par Jeanne Adède, qu'est-ce que vous aviez trouvé comme couleur, comme mélodie et comme rythme dans ce texte-là?
La couleur, c'était peut-être le plus évident, parce que c'est dans le titre, c'est lunaire, c'est il y a mélancolie, nostalgie, et encore une fois, c'est peut-être le morceau le plus classique, je dirais, du disque. Pour moi, c'est assez 19e, siècle, au moins.
Je crois qu'il y a des ruptures brutales, ce morceau.
Après, ça commence comme ça, et, oui, effectivement, après, je peux pas me satisfaire de ça, parce qu'il y a plusieurs niveaux. C'est pas une balade romantique, il y a quand même des doutes, il y a des questionnements. Elle se pose des questions, cette fille qui la chante. Et à un moment donné, ça explose carrément dans la musique et on part ailleurs. Et c'est pareil, c'était évident qu'il fallait partir musicalement dans une espèce... C'est presque schizophrène, cette chanson, je pense. Mais bon, ça c'est mon idée, mais c'est pas... Je pense qu'il y a une cohérence tout de même. Mais c'est ça, c'était dans l'image, était ça, entre la mélancolie et le doute un peu schizophrène, oui.
Vous avez entendu ça, Emmanuel Tuny, en écrivant ce texte?
Oui, non, mais bien entendu. Non, il fallait absolument... Il y a un exercice à poser quand il s'agit de travailler sur Verlaine, parce qu'il s'agit quand même de tracer des ponts entre ce qu'on produit et les gens qui écoutent. Il y a des attentes. C'est comme... On n'imagine pas un concert de C. Jérôme sans la chanson éponyme, etc. Donc la lune Verlaine, c'est impossible c'est impossible de ne pas. Donc il fallait faire une chanson sur ça. Mais la question, c'est quand la plupart des poèmes lunaires que je connais, l'histoire de la littérature, ou même les romans qui traitent de ces questions à un moment ou à un autre, surtout au XVIIe, sont en général du côté de l'observation. D'élévation, enfin, on regarde quelque chose qui est... moi, ce que je voulais, c'est pas ça. Ce que je voulais, c'est qu'il y ait une chute brutale, une dissolution matérielle à partir de la Lune. Je voulais l'effet inverse, je voulais que ça se termine par une espèce de d'évanouissement, encore une fois, de désagrégation, de dissolution, de délitement dans ce qui est plus bas que celui qu'observe. C'était vraiment... La question de ce poème, c'est celle-là. C'est où se trouve le regard au moment où ça chante. Et je voulais traiter la question de la lune chez Verlaine du côté de l'effondrement et pas du côté de l'anagogie de l'élévation vers cette espèce de blason. Voilà. Mais c'était le truc absolument bas de gamme, c'est que c'est très difficile pour un auteur d'écrire sur Verlaine sans évoquer à un moment le problème de la lune, de Saturne, etc. Il y a quelques exercices imposés auxquels il s'agit de ne pas déroger.
Vous voulez bien nous le lire? Je ne sais pas où est passé le livre.
Oui, mais je vais vous chercher ça. Moi, je suis de la lune, je regarde de cette une s'en aller en catimini le temps accompli. Moi, je suis de la vase, je regarde du fond du vase, de la fleur, de la nuit des terres, la vie qui s'affaire. Ce n'est pas que je sois du ciel, que je sois l'abeille et le miel, je m'en vais comme la nuée finir en rosée. Ce n'est pas que je sois le sel, de la nuit la fine étincelle, je m'en vais comme la rivière finir en rizière. Moi, je suis de la lune, je regarde de cette une s'en aller, chut, pas vu, pas pris, le temps morne d'ici, le temps morne d'ici.
Merci. Vous avez fait de la musique avant d'écrire des livres, Emmanuel Tuny, beaucoup de livres, la dimension collective et érotique.
Peut-être même trop, on sait, il y a eu comme une...
Non, c'était dit avec un sourire.
Oui, et une nuance de reproche, c'est toujours comme ça.
Sourire seulement, sans reproche. Et vous avez eu cette phrase, la dimension collective et érotique de l'activité musicale a toujours complété celle de l'écriture de livres. Mmh. Au-delà du fait que ça pourrait impliquer qu'il n'y aurait pas de dimension érotique dans la pratique de la littérature, qu'est-ce que vous permet la musique que vous ne permet pas la littérature?
Ce que permet la musique que ne permet pas la littérature à mes yeux, c'est l'entrée en émulation avec des êtres vivants en face desquels ou aux côtés desquels ou pour lesquels je produis, j'essaye à toute force de produire de l'objet. C'est-à-dire que la musique, c'est pour moi essentiellement le travail de groupe, le travail collectif et la contradiction en quoi consiste autrui dans ce contexte-là. Le truc de la littérature, c'est pas qu'il y ait pas de contradiction, mais la contradiction est la contradiction au flux de sens est produite en général par des choses qui n'ont pas d'existence physique à proximité, qui sont davantage du côté des livres lus, des êtres chers, de telle ou telle nécessité de circonscrire ou d'aborder un concept. Mais l'écriture a ceci de particulier qu'elle définit un autrui en virtualité. L'avantage de la musique, c'est que la production de sens est quand même liée à la fréquentation d'un corps qui est votre limite, et qui est votre limite objective ici et maintenant. Et ça me plaît, ça. Voilà. C'est pas une question de solitude, parce que je crois pas que, je crois que c'est un peu une connerie quand on dit que quand on écrit, on est seul. Il y a beaucoup cette histoire-là. Mais c'est pas exact. On est comme tu le dis d'ailleurs dans ton livre. Il y a énormément de vivants autour de soi. Enfin, c'est Borges, tout ça, quand on écrit énormément de, mais ce sont tout de même des vies incroyablement ductiles, puisqu'elles, elles ne s'interrompent pas pour aller pisser. Elles n'ont pas besoin d'un sandwich à midi. Elles ont effectivement, en règle générale, réglé le problème de leur propre production. Moi, quand je lis, en général, j'ai toujours un auteur en tête, particulièrement. En général, ce type-là ou cette nana-là a terminé son ouvrage au moment où je commence le mien. Donc, nous nous croisons. Je peux pas dire que je sois seul, je la croise. Je croise cet être. Mais cet être-là n'est pas là à m'emmerder, n'est pas sur mon pied. Or, j'aime bien qu'on soit sur mon pied. En général, c'est pour ça que j'aime bien la musique, l'activité musicale.
Ce qui me permet une autre transition, peut-être un petit peu plus acrobatique, sur cette grande affaire du corps, justement, Emmanuel Tuny, puisque... Quand on vous a demandé de choisir une archive, vous avez souhaité écouter cette voix.
Et puis, ce corps, il est léger, il est transparent, il est impondérable. Rien n'est moins chose que lui, il court, il agit, il vit, il désire. Il se laisse traverser sans résistance par toutes mes intentions. Et oui, mais jusqu'au jour où j'ai mal, où se creuse la caverne de mon ventre, où se bloque, où s'engorge, où se bourre d'étoupe, ma poitrine et ma gorge. Jusqu'au jour où s'étoile au fond de ma bouche, le mal aux dents. Alors là, je cesse d'être léger, impondérable, etc. Je deviens chose, architecture fantastique et ruinée. Non, vraiment, il n'est pas besoin de magie ni de féerie. Il n'est pas besoin d'une âme ni d'une mort pour que je sois à la fois opaque et transparent, visible et invisible, vie et chose. Pour que je sois utopie, il suffit que je sois un corps. Toutes ces utopies par lesquelles j'esquivais mon corps, eh bien, elles avaient tout simplement leur modèle et leur point premier d'application, elles avaient leur lieu d'origine dans mon corps lui-même. J'avais bien tort tout à l'heure de dire que les utopies étaient tournées contre le corps et destinées à l'effacer, elles sont nées du corps lui-même et se sont peut-être ensuite retournées contre lui. En tout cas, il y a une chose certaine, c'est que le corps humain est l'acteur principal de toutes les utopies. Après tout, une des plus vieilles utopies que les hommes se sont racontées à eux-mêmes, n'est-ce pas, le rêve de corps immense, démesuré, qui dévorerait l'espace et maîtriserait le monde, c'est la vieille utopie des géants qu'on trouve au cœur de tant de légendes en Europe, en Afrique, en Océanie, en Asie. Cette vieille légende qui a si longtemps nourri l'imagination occidentale de Prométhée à Gulliver.
La voix de Michel Foucault, bien sûr, c'était le 21 décembre 1966. Le corps utopique, vous aviez souhaité entendre, disons, un passage, pas un passage en particulier, mais en tout cas pas le début du texte qui se penche davantage sur Proust, mais plutôt celui-ci. Pour quelle raison?
Mais parce que je ne connais pas de définition plus sûre de ce qu'est la fiction que cette courte réflexion. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse principalement, tout de même, dans l'écriture, c'est l'écriture. Enfin, c'est le démembrement d'un corps en tant que les différentes dimensions que ce démembrement suppose. Quand je parle du corps, je parle évidemment du donné dans sa globalité d'essence. Ce démembrement, pour moi, est la clé de ce que j'appellerais le fictionnel. C'est-à-dire que chaque membre d'un corps démembré par une raison, une écriture, une vue, une subjectivité, est ce que moi j'appellerais la chaîne romanesque, la chaîne de l'écriture. Pour moi, la chaîne de l'écriture, c'est avant tout le renoncement à l'unité du monde à travers une sorte de démembrement actif qui me semble être ce qu'on appelle écriture. Moi, j'appellerais écriture ceci, le démembrement actif d'un corps postulé uni. Je pense que c'est le travail d'un poète ou d'un romancier que de démembrer un. Voilà. Sans doute d'ailleurs pour, in fine, revenir à ce sentiment puissant de l'unité qui a fait les œuvres majeures de notre littérature. Mais ce sentiment puissant d'unité était toujours préfacé par un démembrement de ce géant en quoi consiste le corps social, le monde, les êtres, la subjectivité interpersonnelle, les couples, pourquoi pas la transcendance. Il y a à l'origine, à mon avis, de toute écriture, une volonté puissante et névrotique de démembrement de l'un pour en quelque sorte y revenir pour le consacrer, je dirais, l'imminence.
Dans ce texte Verlaine gisant, vous publiez, Emmanuel Thuny, 40 poèmes ou chansons où l'on croise donc Mathilde, Vanier, l'éditeur, un autoportrait, une chanson d'amour, les bains turcs, le cirque, Rimbaud bien sûr, des lieux, des catins, des souvenirs, des morts, de l'alcool un peu, et un air d'Ananke, qui ne figure d'ailleurs pas sur l'album de John Greaves. Ananke comme le mot inscrit sur le front bombé de Verlaine dans une caricature décrite par Gustave Lerouge dans son texte. C'est un petit peu, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
C'est extrêmement clair.
Et Ananke comme le rêve d'Ananke, un texte que vous venez de publier. C'est à Verlaine que vous le devez, à Hugo.
Non, alors le nom de ce personnage, parce que Ananke est un personnage dans le rêve d'Ananke, est une espèce de paronomas, comme on dit, enfin ça ressemble un peu syllabiquement au nom d'Anna Katharina Scheidegger,
qui est la photographe
qui a accompagné ce livre, et qui non seulement l'a accompagné, mais qui a servi de nourriture à l'activité d'écriture, dont le surnom, en quelque sorte, dans ce métier-là, est Ananke, Ananke, tout ça. Je sortais de Verlaine, évidemment, donc il y avait quelque chose. Mais essentiellement, c'est quand même un livre pour elle. C'est un livre pour cette femme-là, dont l'œuvre, la personne, la manière d'être au monde, l'espèce d'élégance comme ça, un petit peu, une discipline d'être, et sont pour moi une espèce d'image comme ça vivante et en pied de la nécessité. S'il y a nécessité, c'est depuis des gens comme ça qu'elle se saisit, à mon avis. Voilà. Donc j'avais envie, quand j'ai vu son œuvre, je lui ai proposé de produire de 12 photographies et puis d'écrire une espèce de roman un peu cursif dont chacune des étapes serait l'une de ces photographies.
Vous avez chanté Emily Dickinson, Lewis Carroll, Louise Labbé, Apollinaire, John Greaves avant Verlaine. Je crois qu'il y avait eu déjà quelques incursions du côté de la poésie, notamment une adaptation d'un poème de Dylan Thomas.
Oui.
Il y a quelques temps déjà, et ce soir vous avez voulu entendre en archive une voix qui pourrait faire musique, et cette voix, c'est celle-ci.
The whole mess, almost. I ran to my small furnished room, up 6 flights, opened the window, and began throwing out those things most important in life. First they go truth, squealing like a fink. Don't, I'll tell awful things about you. Oh yeah, I've nothing to hide, out. Then went God, glowering and whimpering in amazement. It's not my fault, I'm not the cause of it all, out. Then love, cooing bribes. You'll never know impotency. All cover girls will be yours. I pushed a fat ass out and screamed, you always end up a bummer. I picked up faith, hope, charity, all three clinging together. Without us, you'll surely die. With you, I'm going pazzo, goodbye. Then beauty, ah, beauty, as I led her to the window, I told her, you I love best in life. Not really meaning to drop her, I immediately ran downstairs, getting there just in time to catch her. You saved me, she cried. I put her down and told her, move on. Went back up those 6 flights, went to the money. There was no money to throw out. The only thing left in that room was death, hiding beneath the kitchen sink. I'm not real, it cried. I'm just a rumor spread by life. Laughing, I threw it out, kitchen sink and all, and suddenly realized humor was all that was left. And all I could do with humor was say, out the window at the window.
Parliez de Ginsberg tout à l'heure, John Greaves. Là, c'est oui. La voix de Gregory Corso qui lit The Whole Mess Almost. C'était dans l'émission de télévision italienne Blitz en 1984. Une voix ou un poème, en tout cas, dont vous vous êtes emparé, vous-même, déjà. Je vous entendais d'ailleurs doubler la voix de Corso en même temps qu'on entendait l'archive.
Oui, je connais très bien ce poème-là. Et effectivement, j'avais même... Oui, c'est marrant, parce que il faut dire que je n'attendais pas ce morceau-là aujourd'hui, mais en l'écoutant, j'avais déjà lu ce poème dans le contexte complètement improvisé avec un certain Olivier Milano et...
Guitariste.
Thomas de Pourquery.
Chanteur.
Alors, on a fait une version de ça, donc je suis assez fier. Et en écoutant le vieux, là, c'est quand même, je pense qu'on lui rend hommage comme il faut. C'est pas mal. Corso, c'est mon préféré des Beats, en fait, je pense.
Pour quelle raison ?
Il est à la fois plus classique et plus direct, plus honnête, je le crois plus. D'autant que les autres étaient plus les fils de riches. Lui, c'est la vraie chose, quoi. Lui et Hunky, dont je parlais dans ma chanson tout à l'heure. Herbert Hunky. C'est lui, il avait rencontré Corso à Saint-Quentin, en prison. Parce que Hunky, il était mac, il était voleur, il était en prison pour viol, pour des horribles... Vraiment, les vrais bas-fonds de New York.
C'est ça qui le rend plus honnête que
c'était
les autres.
C'était leur entrée dans les bas-fonds. Les autres voulaient passer par lui, mais Corso l'avait déjà rencontré en prison. Ils étaient vraiment des potes, quoi. Ils étaient vraiment là-bas. Les autres venaient, c'était des bas-fonds de dimanche, quoi. Eux, c'était les vrais. Et il y a un film fait juste avant la mort des deux, filmé à St. Mark's Church, Brooklyn, où il y a une vidéo de ça qui est formidable, juste les deux, assez dans les années 80, Hunky et Corso. Ça, là, tu vois tout. Ça, c'est la poésie livrée comme il faut.
Qu'est-ce que vous reprochez aux autres ?
Oh, pas beaucoup, ils sont forts. Mais mon préféré, c'est Corso. Voilà.
Si vous voulez bien rejoindre le piano et le micro. Je ne suis pas tout à fait sûre de ce que vous allez interpréter, l'un et l'autre. Je vous en prie. Toujours Emmanuel Tunis au micro et John Greaves au piano et à la voix. C'est à vous.
Marais silencieux, j'embrasse. Marais de fientes et de
fées. Je te veux.
Votre amour fou.
Presque nu.
D'éternité.
Sur un canapé noir. Dans un jaune boudoir. Comme en 1830.
D'éternité. Marais silencieux. J'embrasse. Marais de fientes et de fées, votre amour fou d'éternité.
Presque nu, mais non nu, à travers une nuit.
Votre amour fou
de dentelle montrant ta chair, où va courant ma bouche délirante
d'éternité. Je les aime, mes trépassés. Les refrains de leurs voix cassées, les fleuves qu'ils font du dessous.
Je te veux, trop rieuse.
Pour que nous revienne le haut.
Et très impérieuse.
J'embrasse.
Méchante et mauvaise.
Marais de fientes et de fées.
Et pire. S'il te plaisait,
votre amour fou d'éternité.
Si luxurieux
d'éternité. Marais silencieux, j'embrasse. Marais de fientes et de feu, votre amour fou d'éternité, votre amour fou d'éternité, votre amour fou d'éternité.
Merci, c'était John Greaves au piano et à la voix, et Emmanuel Tunis au micro aussi. Donc toujours un habile mélange de Verlaine Gisant, donc c'était l'adieu, un texte l'adieu, et cette fois, dans votre bouche en tout cas, John Greaves, c'est Guédi de Verlaine.
Vous écoutez France Culture. poésie et ainsi de suite. Par Manu Farine.
Au piano, allez. Hein. Ouais.
Nous voilà gravissant en silence l'étroit escalier qu'assourdit une carpette maintenue par de luisantes barres de cuivre. Tout y paraît minutieusement propre et c'est avec un réel soulagement que nous constatons que l'hôtel qui abrite Verlaine n'est pas de la dernière catégorie. On nous avait parlé de bouges sinistres, de tendis hantés par des filles en cheveux et des escarpes. Ce garni banal où doivent loger des étudiants peu fortunés ou de maigres draps de papier vaut tout de même un peu mieux. Ce n'est pas sans un battement de cœur que nous faisons halte en face d'une porte. Dans les demi-ténèbres du couloir, je frappe timidement. « Entrez !» nous crie de l'intérieur une voix dont je n'oublierai jamais l'intonation assourdie, le timbre mélancolique et solennel. Il y a, dans l'inflexion de cette voix, quelque chose de poignant qui remue les fibres les plus secrètes. Ne semble-t-il pas qu'elle veuille nous dire, cette voix douloureuse, « Entrez, qui que vous soyez, tout m'indiffère. Je n'attends rien de personne, entrez vite, pour me débarrasser plus vite encore de votre présence. » Nous franchissons le seuil sur la pointe du pied, respectueusement. La chambre, au mobilier si banalement pareil à tant d'autres que je n'en ai gardé aucun souvenir précis, est étroite comme un corridor, mal éclairée par une fenêtre qui donne sur une maison.
Days to be real, the nights of pure fantasy are the same.
En avant.
Imperfect complicity.
En avant, cria-t-il.
Your face of stone, my flesh and bone.
En avant.
Symphony in microtones.
En avant, cria-t-il.
Same.
Petit bonhomme vit encore.
Same. Watch my memories float downstream. Diamonds in a diary, notes in a dream. And it's just enough to make me cry. All that flotsam floating by. A particle of water, it's a molecule of me. A million tiny pieces all headed out to sea. There's no reason why I'll be passing by this way.
En avant.
Again.
C'était Poésie et ainsi de suite, John Greaves et Emmanuel Tuny pour Verlaine Gisant, une émission de Manu Farine diffusée le 8 janvier 2016 sur France Culture. Réalisation Olivier Guérin.